On va parler de recherche et troubles de l'humeur et troubles bipolaires, dépression. Et pour cela, nous avons demandé à deux médecins et une cadre infirmier de venir parler de la recherche à l'hôpital Labori. À l'hôpital Labori, on vous expliquera un peu plus longuement qui a une unité de recherche et comment ça s'articule entre le soin et la recherche. Alors, j'ai noté quelques petits éléments. Au niveau international, il semblerait, d'après un article de 2007 d'une grande revue américaine, que la France serait cinquième mondiale au point de vue recherche. Alors, on peut discuter des cotations, tout ça, qu'est-ce que ça vaut, Shanghai, tout ça, ça va papoter un peu. Il paraît qu'on est pas si mal, du coup. Voilà, donc vous argumenterez peut-être là-dessus. Par contre, le premier journal de psychiatrie, journal scientifique, est un petit peu à la ramasse. Il est 35e. Mais ça n'empêche pas qu'on va vous expliquer qu'à l'hôpital Labori, en recherche et en soins, il se passe pas mal de choses. On va commencer avec Julie qui va présenter l'association et qui lancera le débat et qui présentera les intervenants. Tout à l'heure, on aura des questions. On tâchera de vous donner des réponses ou que vous repartiez avec d'autres questions, parce que c'est pas mal de repartir avec une question. On reparlera de l'association, on vous donnera les coordonnées. Et on termine à 22h au plus tard. Voilà. Julie, le
micro. Merci Jacques. Bonjour à tous. Bienvenue à l'espace Mendès France. Donc, c'est une soirée organisée par l'association Argos 2001, donc comme Jacques l'a dit, une association de patients et de proches concernés par le trouble de l'humeur. Donc c'est une association qui a été créée, comme son nom l'indique, en 2001. Le siège est à Paris, c'est une association agréée en santé. L'antenne de la Vienne fête ses 15 ans, elle a été créée en 2004. C'est une antenne très active, on a un grand nombre d'adhérents et on propose plein de partenariats avec l'hôpital. Donc je vais vous expliquer un petit peu les actions d'Argos sur le département. Donc je disais, les patients et les proches ensemble, c'est important, c'est notre leitmotiv face à la maladie. Donc on sait que, ou vous le savez peut-être déjà, que le diagnostic du trouble de l'humeur peut prendre plusieurs années, c'est un long parcours, on dit en moyenne entre 7 et 10 ans. Donc le trouble de l'humeur se caractérise par des hauts très hauts et des bas très bas. Donc les objectifs d'Argos, d'abord de l'information, de l'écoute et du soutien. Mieux le patient et les proches connaissent la pathologie, mieux ils vont pouvoir vivre avec. Donc l'information, on propose des réunions tous les mois, en début de chaque mois. Donc c'est un programme de psychoéducation qui est dispensé bénévolement par des professionnels qui partagent nos valeurs. Alors par professionnel, il y a évidemment des soignants, mais également assistantes sociales, acteurs de l'insertion professionnelle, toutes les équipes pluridisciplinaires sont représentées. Donc 10 séances, comme je vous disais, réparties sur une année, et ces séances d'information sont ouvertes à tout le monde. Donc on va commencer par les généralités en début d'année. Ensuite, on va parler de l'épisode maniaque, l'épisode dépressif, les pathologies associées. Il faut savoir que le trouble bipolaire a beaucoup de, j'aime pas trop ce mot-là, mais de comorbidité, c'est-à-dire de troubles associés à la maladie. Les traitements pharmacologiques, les traitements psychothérapeutiques, le juridique, le social, l'insertion professionnelle, la prévention du suicide. Et enfin, on termine l'année avec vivre avec sa maladie. Donc, les réunions d'information permettent d'améliorer l'observance, renforcer l'alliance thérapeutique, donc le lien de confiance entre le soigné et le soignant. Le patient devient acteur de sa santé. Écoute et soutien sur un volet groupe de parole, donc en fin de chaque mois. Donc, des groupes de parole qui sont réservés aux patients et aux proches, qui sont animés par les bénévoles de l'association formés et qui ne se substituent pas au volet médical. Le groupe de parole offre un lieu et un temps d'expression libre, régulé et confidentiel. Il est régi par certaines règles. Nous modérons la parole, mais une dynamique de groupe se crée naturellement et les échanges sont très variés. Après, il y a des gens qui viennent, qui ne s'expriment pas, qui sont là pour écouter, ou des gens qui viennent pour partager. Peu importe, il y a une dynamique de groupe et le partage est très intéressant. Donc les règles, c'est le non-jugement, témoignage, déstigmatisation, confidentialité et bien sûr la bienveillance. L'association nationale, vous pouvez retrouver sur Internet en tapant Argos 2001. Donc je vous disais, il y a 11 antennes en France. Au niveau local, vous pouvez retrouver le calendrier de toutes les activités en tapant Argos Vienne. Et nous nous réunissons donc à la maison des associations à Vouneuil-sous-Biard. Vous avez également un numéro de téléphone, mais bientôt il va changer. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet pour vous tenir au courant. Merci. Alors, je vais peut-être lancer d'abord le témoignage d'une patiente qui avait fait un témoignage sur la légitimité de la phase dépressive dans le trouble bipolaire. C'est quelque chose qui revient souvent en groupe de parole, donc on avait choisi de parler sur ça à la dernière journée universitaire dépression-bipolarité. Donc c'est un petit passage, quelque chose qui a été réfléchi par rapport aux réactions qu'on a en groupe de parole.
De l'information qui nous a été donnée par les derniers groupes de parole et puis peut-être un peu du vécu aussi. Donc c'est c'est pas tant un recueil de témoignages que un ensemble d'informations qui nous a été donnée par les derniers groupes de parole et puis peut-être un peu du vécu aussi sur la phase dépressive et la légitimité du patient dans cette phase. Alors cela peut paraître surprenant, mais il est souvent rapporté que les personnes vivant avec un trouble thymique sentiraient leur souffrance légitimée par l'apparition d'une maladie somatique lourde, comme un cancer ou une maladie invalidante. Ainsi, il est possible d'attendre les résultats d'un examen sanguin ou d'une mammographie, par exemple, avec l'espoir d'une mauvaise nouvelle, là où toute autre personne non thymique verrait une catastrophe. Par exemple, j'ai passé une IRM de l'encéphale lundi, j'étais extrêmement déçue qu'on ne m'ait pas trouvé de tumeur. L'explication n'est pas simple, mais elle présente une certaine logique. Une maladie physique est souvent mieux comprise et acceptée par l'entourage qu'une maladie mentale. Non induite par un trauma ou par un enchaînement douloureux d'événements de vie qui sont reconnus comme tels par la société, la dépression bipolaire génère souvent moins de soutien des proches. Et l'incompréhension. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui, pourquoi tout d'un coup tu ne te sens pas bien ? Le sentiment d'illégitimité est récurrent. se sentir profondément mal, sans aucune raison apparente pour la famille, les amis, les collègues, est très perturbant. La culpabilité du patient s'amplifie. Un changement de rythme du quotidien, un changement de météo, peuvent engendrer une grande instabilité émotionnelle, précipitant la personne dans un état dépressif plus ou moins sévère. Les patients souffrant de troubles thymiques témoignent qu'une fois le diagnostic de bipolarité posé et l'acceptation de la maladie faite, leur dépression change de statut. Il faut faire le deuil d'une guérison pérenne. Bien sûr, on pourra vivre mieux, notamment avec les traitements pharmacologiques et la psychothérapie, mais ce sera toujours vivre mieux avec. Merci pour votre attention.
Donc, suite à ce témoignage, il y aura sûrement des questions. Évidemment, vous pouvez venir nous voir, les membres de l'association, à la fin de cette soirée. Et maintenant, je vais introduire l'intervention du docteur Diane Lévy-Chavagna, chef de service, docteur Arika Germano, qui est également médecin psychiatre à l'unité de recherche clinique de Poitiers, et madame Cécile Boisvert, donc cadre à l'unité de recherche clinique de Poitiers.
Merci beaucoup, Julie, et puis merci pour le témoignage qu'on vient d'entendre. Alors, donc, oui, on a le plaisir ce soir d'être trois personnes, dont Henri Dabouri, hein, donc ma collègue à ma droite et Cécile, la cadre infirmière. Alors, c'est important, donc, avant de leur laisser la parole, de resituer un petit peu, on va dire, la recherche en psychiatrie. Bon, Jacques, tout à l'heure, a donné quelques éléments autour de comment la France pouvait être située dans le monde. Il faut dire que la recherche, c'est important que ça puisse tous vous concerner. Hein. Et dans le cadre du trouble bipolaire, qui est une maladie quand même très fréquente, hein, je rappelle que le trouble bipolaire, on va dire selon...
Une journée de présence.
Selon le type de bipolarité qu'on peut avoir, ça peut être de 2 à 6% de la population, donc c'est quand même très important. Et souvent, comme l'a très bien dit Julie, hein, c'est quand même pratiquement une dizaine d'années avant que vous puissiez être soigné pour la maladie que vous avez réellement. Alors ça peut paraître bizarre comme ça quand on n'est pas directement concerné. Bon, nous, médecins, on sait, psychiatres, c'est quelque chose auquel on est confronté régulièrement, mais bon, ça reste quand même encore un problème. On sait très bien que plus les détections sont précoces dans les maladies mentales, plus les résultats et les thérapeutiques peuvent être utiles pour la personne. Je vais donc passer la parole à mes collègues, hein, chercheuses, voilà. Et ensuite, il y aura une présentation, des extraits de vidéos d'une grande conférence qui a eu lieu cette année à Poitiers, hein, avec des médecins, des psychiatres internationaux sur justement la bipolarité.
Merci Diane. Merci pour cette invitation. Donc nous, notre objectif aujourd'hui avec Madame Boisvert est de vous expliquer un petit peu, on a essayé de simplifier, mais ce n'est pas toujours évident, de vous expliquer un petit peu comment ça se déroule la recherche et comment ça se passe, la mise en place d'un protocole de recherche et la participation à cette recherche, avec bien sûr de souligner les objectifs de cette recherche. Donc avant de démarrer, nous avons choisi un extrait d'une vidéo qui permet de résumer un petit peu nos propos par la suite. Un extrait d'une vidéo qui a été présentée par le professeur Jaffari, responsable de l'unité, et qui a été eu lieu lors d'une journée de recherche paramédicale.
Alors, monsieur le directeur nous a parlé de repas. Moi, je vous dis une chose. Si vous m'invitez à manger, je mange la moitié de ce que vous auriez pu manger. Donc, vous perdez. Quand on a une bonne bouteille de vin, on perd la moitié. Vous êtes d'accord avec moi? C'est de la réflexion, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Quand on invite quelqu'un, on perd la moitié de ce qu'on aurait pu manger soi-même. Eh bien, la science est la seule chose que quand on met au milieu, ça se multiplie par 2, par 3, par 4. On ne perd pas. Voyez, c'est ça ce qui est propre à la réflexion et à la recherche, c'est que quand on partage, on devient plus riche. Et on a encore plus pour le lendemain. Ça ne se diminue pas. Ce n'est pas possible. Donc, mettez au milieu la réflexion, vos idées, et vous verrez que le lendemain, l'après-lendemain, vous revenez au travail, vous revenez à réfléchir encore avec beaucoup plus de plaisir qu'hier. Ça, c'est central dans l'idée de développer une recherche quelconque. Il faut que chacun puisse se trouver et trouver du plaisir d'abord dans la réflexion, et particulièrement de voir en quoi cette réflexion peut lui apporter dans son quotidien, et puis au-delà, ce pourquoi nous avons signé le premier jour, c'est-à-dire de soigner des patients. Le deuxième...
Voilà donc le professeur Jaffari, hein, qui a résumé tout à fait, de manière imagée, mais tout à fait réaliste, que finalement la recherche, c'est un partage de réflexion entre tout un tas d'équipes. Hein, on n'est pas tout seul dans son coin à faire de la recherche et à jouer à l'apprenti sorcier, c'est pas du tout ça. Hein, c'est vraiment du partage, hein, et donc ça enrichit la science et ça enrichit par ailleurs, donc, la chance pour vous, hein, de pouvoir être soigné par tout un tas de méthodes nouvelles.
Donc, pour parler plus spécifiquement de la recherche, donc nous, dans l'unité de recherche clinique du Centre hospitalier Henri Laborie, on mène des projets de recherche clinique. Qu'est-ce que c'est la recherche clinique ? La recherche clinique, c'est un ensemble des études scientifiques. C'est une recherche qui s'intéresse à la personne humaine, qu'elle soit atteinte d'une maladie particulière ou qu'elle soit présente, pour essayer de comparer finalement la personne sans maladie avec une personne qui est malade. Cette recherche, elle est encadrée, il y a des protocoles d'études très précises, des conditions très spécifiques pour l'application de cette recherche, et elle a des objectifs très précis. Donc l'objectif de cette recherche clinique est simple, c'est de pouvoir permettre un progrès dans les soins et dans la prise en charge des patients par la suite. Cette recherche clinique peut être menée par les médecins, mais pas seulement, elle peut être menée par des scientifiques, par des infirmières, par toute personne qui s'intéresse à ce type de questions. Et donc parmi les types de recherche clinique, il y a bien sûr la recherche paramédicale, dont va parler Madame Boisvert.
Donc la recherche paramédicale, elle ne diffère pas du tout en fait des autres types de recherche. Mais on peut dire que la recherche paramédicale, c'est vraiment un lien entre la réalité du terrain, la théorie, mais aussi la qualité des soins. Alors les soins, on entend par soins les soins à visée curative, mais aussi éducatif, préventif, et la rééducation, voire même la réadaptation. La recherche paramédicale, elle s'adresse à tous les auxiliaires paramédicaux des métiers de la santé, du secteur privé, public, mais aussi aux infirmières et autres paramédicaux libéraux. Et parmi les paramédicaux, on connaît évidemment les infirmières, les aides-soignants, mais aussi les kinésithérapeutes. Mais il y a d'autres métiers, comme un peu moins connus comme paramédical, les audioprothésistes, les diététiciens, les ergothérapeutes, les manip radio et éventuellement les opticiens, les orthophonistes, les pédicures, mais aussi les podologues, les prothésistes, les psychomotes et les techniciens de laboratoire. Pour vous présenter la recherche d'une manière très simpliste, hein, c'est pas, ça ne résume pas tous les types de recherches qui existent. En gros, si, pour une meilleure compréhension, on peut dire qu'il y a deux types de recherches, la recherche fondamentale et la recherche interventionnelle. La recherche fondamentale est là pour objectif une meilleure compréhension finalement des pathologies. Le but de la recherche fondamentale, c'est d'essayer de mieux comprendre comment ça se déroule, comment ça s'explique une maladie, de comprendre sur le plan neurobiologique, sur le plan génétique, sur le plan plus expérimental, une compréhension d'une maladie. L'autre volet de la recherche est la recherche interventionnelle, où là on va essayer plutôt de développer des prises en charge ou de comprendre comment différentes méthodes de prise en charge fonctionnent. Donc dans la recherche interventionnelle, on va essayer de tester de nouveaux traitements, des nouvelles techniques thérapeutiques et d'essayer de voir si ces techniques fonctionnent ou comment elles fonctionnent. Donc ça, c'est un gros résumé de type de recherche. Il y a bien sûr d'autres types de recherches. Il y a des recherches sociologiques, des recherches épidémiologiques, des recherches sur des cohortes pour essayer de voir un peu l'évolution de certains types de maladies. Mais en gros, on a ces deux gros blocs, la recherche fondamentale et la recherche interventionnelle. L'objectif de la recherche, quant à lui, il vise à dégager de nouveaux savoirs au bénéfice des patients, mais pas uniquement des patients, mais aussi leur entourage, de promouvoir la santé, la prévention des maladies, les soins aux individus de tous les âges. Donc ça peut être, cette recherche peut être destinée aux enfants, aux personnes d'âge mûr ou des personnes un peu plus âgées. Les principales caractéristiques d'une recherche, ça part toujours d'un questionnement. Il y a une idée, il y a un questionnement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Donc il y a un questionnement qui est présent. Ce questionnement, on va essayer de l'étayer d'une manière scientifique. Donc on va rechercher une explication scientifique, des méthodes bien définies pour essayer de comprendre cette question qui nous pose problème. La recherche se déroule dans un règle déontologique précis, avec un cadre strict pour assurer une protection de tous les participants. Elle s'inscrit dans une démarche éthique, dans une démarche légale. On a des textes de loi sur lesquels on se réfère pour mettre en place cette recherche, mais également un aspect réglementaire qui est très précis. Et cette recherche, elle est menée par des personnes compétentes, c'est-à-dire des personnes qui connaissent la maladie dont ils s'occupent ou la question sur laquelle ils veulent travailler, et se déroule souvent avec une équipe pluridisciplinaire, comme ça se passe à l'unité de recherche clinique qu'on vous présentera à la fin. Donc la recherche va nous permettre de mieux caractériser une maladie, de mieux la comprendre sur le plan clinique, sur le plan de l'imagerie, sur le plan génétique, de mieux caractériser parfois la résistance aux thérapeutiques. On le sait très bien que certains patients ne vont pas répondre au traitement classique qu'on va utiliser. C'est intéressant de comprendre pourquoi ces personnes-là résistent alors que les autres vont bien répondre à ces types de thérapeutiques. De mieux comprendre la rechute, pourquoi après plusieurs années de stabilisation, il y a une rechute qui arrive. Donc là, c'est des recherches pharmacogénétiques qui peuvent nous aider dans cette perspective-là. Mais également, de mieux évaluer nos pratiques quotidiennes. On met en place des fois des programmes, des choses qu'on pense utiles. Mais si on n'évalue pas ces pratiques-là, si on ne démontre pas réellement que ça fonctionne et comment ça fonctionne, bah c'est compliqué de le partager et de dire aux autres, bah faites pareil que nous, parce que ce qu'on a fait, ça marche. Ou surtout, ne faites pas pareil que nous, parce que ce qu'on a fait, ça ne marche pas. Et donc, ça induit parfois des réplications, des choses qui ne sont pas utiles, ou de ne pas répliquer des choses utiles. Et ça permet par la suite aussi de proposer d'autres types de prise en charge. On le sait, certaines pathologies, on a essayé certains médicaments, on a essayé certaines psychothérapies, ça ne fonctionne pas. Il faut essayer parfois de chercher au-delà, de proposer des alternatives plus innovantes, comme certaines techniques, notamment les techniques de neurostimulation, ou certains médicaments qui sont plus à l'essai.
Donc au niveau de la recherche paramédicale, on a des objectifs évidemment un petit peu plus différents. Donc c'est d'améliorer les pratiques et la qualité des soins que l'on dispense aux patients. C'est aussi se questionner, réinterroger et nourrir nos pratiques quotidiennes auprès des patients. C'est vérifier également qu'une pratique ou un type de prise en charge marche, c'est-à-dire qu'on évalue en fait ce que l'on fait. C'est préciser aussi et valoriser les résultats attendus et obtenus. C'est favoriser le va-et-vient entre savoir et pratique professionnelle et de formaliser vraiment ces savoirs de façon concrète. C'est également de consolider par la recherche les savoirs scientifiques utilisables pour alimenter les prises de décision des paramédicaux, parce que par exemple, les infirmières ont un rôle propre, évidemment, elles ont un rôle délégué sous la direction du médecin, mais elles ont aussi toutes, par décret, en fait, un rôle propre qu'elles peuvent, où elles peuvent prendre des décisions et des soins infirmiers auprès des patients. Et c'est développer les sciences infirmières et paramédicales en France. Pour les professionnels paramédicaux, notamment les infirmiers, la recherche est vraiment un moyen de prendre de la distance sur ce qu'on fait tous les jours et de tisser les liens vraiment entre la théorie, le savoir-faire qu'on a en tant que soignante, mais aussi le savoir-être auprès des patients. C'est vraiment un lien étroit entre, avec une démarche qualité qui est recherchée dans tous les hôpitaux aujourd'hui. Et c'est vraiment se mettre en position de chercheur, c'est vraiment changer de posture. Alors, ce n'est pas tous les jours facile, mais c'est vraiment analyser nos pratiques et produire de la connaissance communicable aux autres et qui auront peut-être un intérêt scientifique et professionnel pour l'ensemble de la profession.
Pour résumer cette première partie, avant de rentrer par la suite dans la partie plus réglementaire et comment les choses se passent dans la pratique, donc l'objectif de la recherche, c'est de mieux comprendre. Mieux comprendre nous permet de reconnaître les maladies, de mieux les diagnostiquer, de les diagnostiquer le plus tôt possible, comme l'a dit le docteur Lévy tout à l'heure, de mieux soigner, de mieux accompagner les patients, mais également leur entourage, de tester l'efficacité de certains types de prises en charge, quelles que soient les prises en charge. Et en démontrant l'efficacité, ça nous permet de valoriser les pratiques et ça nous permet par la suite d'avoir des meilleurs financements, des meilleures prises en charge, de meilleures reconnaissances, notamment par la sécurité sociale, des programmes de soins qui sont efficaces. Mais si on ne démontre pas que c'est efficace par des objectifs précis, ben finalement, ils ne peuvent pas le savoir, donc ils ne peuvent pas nous le rembourser, ce type de prise en charge. Donc ensuite, on va vous parler du côté un peu plus réglementaire, parce que la recherche, c'est pas juste j'ai eu une idée, et ben en fait, je mets mon idée en exécution. C'est quand même un processus très complexe, très long. C'est quelque chose d'utile, parce que cette complexité garantit aussi qu'il y a un respect du patient, de l'éthique, et que ça ne nous permet pas de faire n'importe quoi, parce qu'on a comme ça une idée, on a envie de tester la pertinence de cette idée.
Donc en fait, toute recherche, qu'elle soit médicale ou paramédicale, est soumise au contrôle à la fois de tutelle, mais aussi d'instances réglementaires. Dans un premier temps, les tutelles, il y en a trois. Donc il y a la DGOS, la Direction Générale de l'Offre des Soins, l'INSERM aussi, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, mais aussi le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ce dernier, en fait, est là pour protéger... En fait, par exemple, nos protocoles de recherche. Quand on a une idée et qu'elle est bien aboutie, etc., il est important de protéger son idée parce que si on en parle sans l'avoir protégée, éventuellement, une autre équipe de recherche avec plus de chercheurs, plus de temps, plus de moyens, peut éventuellement nous prendre l'idée et en fait la mettre en place à notre place. Il y a aussi donc des instances réglementaires. Donc il y a tout d'abord le comité de protection des personnes. Donc lui, il est essentiel. C'est-à-dire que les CPP, ils ont pour mission de donner un avis motivé préalablement à toute recherche. Cet avis, s'il n'est pas favorable, la recherche n'aura pas lieu. Ensuite, on a la NSM. Vous savez, bon, alors là, c'est pour les médicaments, mais aussi les dispositifs médicaux que l'on peut employer auprès des patients. Il y a aussi le comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé. Donc lui, ils émettent plus un avis sur tout ce qui est la méthodologie retenue pour le protocole, la nécessité du recours à des données à caractère personnel, vraiment regarder la pertinence de celle-ci par rapport à la finalité du traitement et du protocole, et s'il y a lieu aussi sur la qualité scientifique du projet. Si tout ça n'est pas respecté, il demande évidemment de se mettre en conformité aux chercheurs pour pouvoir donner ensuite un avis qui facilite évidemment l'instruction du dossier par la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en l'éclairant directement sur les aspects méthodologiques et scientifiques du dossier. Et quant à la CNIL, elle veille au respect de la confidentialité des informations recueillies et aussi elle informe de l'existence de tout fichier. On doit l'informer dès qu'on prend des données sur les patients, quelles qu'elles soient, la CNIL doit être informée.
Donc comment se déroule le protocole de recherche ? C'est toi.
Oui. Donc, après avoir vu la réglementation, on va parler maintenant du protocole en lui-même. Donc, comme vous le disait le docteur Arica Germano, c'est très pointu et il y a un contenu. Donc le contenu d'un protocole de recherche est le suivant. Donc il doit y avoir toujours la justification scientifique de la recherche. Donc on le verra tout à l'heure, on la trouve où ? Bah, dans la littérature, mais aussi dans ce qu'on fait tous les jours. On peut faire éventuellement des petites recherches où on essaye de prouver que ça peut éventuellement marcher. Il doit y avoir des objectifs aussi très précis, donc un objectif principal et puis aussi plein d'autres objectifs secondaires. Il doit y avoir un schéma d'études qui doit être respecté tout au long du protocole. Il y a une définition claire, nette et précise de la population, des gens que l'on va inclure dans le protocole, mais aussi les critères d'exclusion. Il y a la définition éventuellement, s'il y a lieu, en fait, de groupes de comparaison. Il y a l'aspect statistique qui doit être décrit précisément, l'aspect éthique et réglementaire, et aussi l'organisation pratique de l'étude. Au niveau en fait, des impératifs éthiques, donc il y a le respect de la personne qui est défini par les principes éthiques, donc un consentement éclairé, on le verra un petit peu plus précisément tout à l'heure, une évaluation des avantages et des risques à faire cette recherche, une réflexion approfondie sur la manière de sélectionner les sujets de la recherche, donc on ne va pas prendre tout le monde pour inclure un maximum de monde, il faut faire des choix. Et il y a le respect aussi des méthodes scientifiques. La compétence en recherche, c'est vraiment de choisir la méthode la plus cohérente à son objet de recherche. Il existe de nombreuses méthodes et pour ça, on a besoin souvent de discuter en équipe pluridisciplinaire.
Donc le déroulement d'un protocole de recherche, donc comme je vous disais tout à l'heure, ça part d'une idée, ça part d'un questionnement, ça part d'une constatation clinique qu'on aimerait comprendre ou approfondir. Donc une fois qu'on a cette idée, on va rechercher au niveau de la littérature, si scientifiquement, quelles sont les choses à mettre en place pour essayer de valider cette idée. Donc on essaye de retrouver toutes les données qui peuvent justifier notre hypothèse. Ensuite, on essaye de voir au niveau méthodologique comment ça peut se passer. Combien de fois il faut voir les patients, sur combien de temps, est-ce que c'est une visite, deux visites, trois visites, sur un an, deux ans, trois ans. Ensuite, il faut voir au niveau budget, combien cette recherche va nous coûter, combien ça va nécessiter en personnel, en matériel. On va rédiger un protocole, le protocole où on va noter dedans tous les éléments, donc la justification scientifique, mais également la méthodologie bien précise, les assurances, le risque encouru par les patients, les systèmes, enfin, toutes les assurances qu'on a contractées, quel comité de protection de personnes a validé ce projet, donc tout est noté dedans. Ensuite, à l'issue de ce protocole, on va rédiger une note d'information et un consentement, on vous en reparlera plus en détail après. La note d'information, elle est indispensable. Vous ne pouvez pas participer à un protocole si on ne vous donne pas cette note d'information qui va résumer l'aspect scientifique, l'aspect méthodologique. Et dans cette note d'information, on va vous dire quels sont les risques pour vous, quelles sont les choses à surveiller, quels sont vos droits et également quelles sont les assurances en cas de soucis particuliers et quelle est la responsabilité du promoteur, c'est-à-dire de la personne qui a mis en place ou qui soutient cette recherche. Et l'autre volet qui est indispensable, c'est le consentement. Pour participer à une recherche, il faut signer un consentement, c'est-à-dire qu'il faut être d'accord pour participer à cette recherche, en sachant que signer ce consentement n'engage à rien. Donc là, pareil, le consentement, il est bien explicité avec toutes les contraintes qui sont liées à cette étude. Ensuite, on va rédiger un cahier d'observation. C'est un cahier dans lequel on va recueillir tous les éléments en lien avec la recherche. Donc à chaque visite, quand on va rencontrer des patients, tous les éléments qui sont en lien avec la recherche seront notés dans ce cahier-là. Les évaluations, les modifications de traitement, tout est noté dans ce cahier. Ce cahier, il est aussi réglementaire, il a un archivage spécifique et il a une durée d'archivage qui est aussi spécifique. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va aller à la pêche des financements. Des fois, on en trouve, des fois, on n'en trouve pas. Donc ça, c'est la partie un peu plus compliquée, pas toujours évidente. Donc ça, les financements aussi, on vous en parle par la suite. Donc voici un exemple d'un déroulement de protocole de recherche. Donc Cécile va le présenter. C'est pour vous montrer quand même que c'est pas quelque chose d'immédiat et d'instantané. La recherche, ça prend beaucoup de temps et ça nécessite beaucoup d'efforts.
Donc, je vais vous présenter un protocole que je connais bien, puisque c'est le mien, en fait. Donc, c'est un protocole infirmier que j'ai mis en place tout d'abord sur l'hôpital où je travaillais auparavant, à Limoges, qui concernait des patients atteints de schizophrénie. Donc, le tout début, en fait, de l'idée m'est venue en 2008, où dans les pavillons, il n'y avait pas forcément d'entretien en fait auprès de ces patients, et donc j'ai voulu essayer une méthode, un entretien très très particulier, avec à l'aide d'une échelle, et donc je l'ai essayé en 2009. J'ai commencé en 2009 et au bout d'une cinquantaine de patients, je m'apercevais qu'il y avait en fait des changements de l'insight, notamment, que je mesurais. Et là, j'ai été invitée à aller voir dans la bibliographie qu'est-ce qui se passait, puis de rencontrer aussi le département recherche et développement pour donner un caractère scientifique que je n'avais pas auparavant à ces résultats. Ensuite, en 2011, j'ai essayé de rechercher du soutien et une formalisation, donc avec la direction des soins, les cadres de santé de mon hôpital, les tuteurs, les curateurs. Donc il fallait présenter, convaincre aussi à différentes instances. Et puis après, on a construit et écrit le projet. Ensuite, en 2012, donc, on a déposé le projet à financement. Donc, au financement, c'est un financement national, le PHRIP, un programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale. On a mis en œuvre aussi le projet et on l'a mis en place sur Limoges. Le PHRIP, donc, le financement est arrivé en décembre, donc j'ai reçu 58 000 euros de l'État pour mener à bien cette recherche. En juillet 2012, donc, on a inclus le premier patient. J'ai reçu, grâce au financement, en fait, j'ai pu financer un mi-temps pour moi, en fait, pour mener à bien cette recherche. Donc c'était très appréciable, parce que du coup, quand on est au quotidien auprès des patients, mener une recherche supplémentaire, il faut bien savoir qu'entre 2008 et 2012, tout le travail effectué sur ce protocole a été fait sur mon temps personnel, puisque en fait, sur notre temps de travail, je n'avais absolument pas le temps d'écrire le protocole. Donc après, pour les inclusions, donc, je les faisais sur mon mi-temps. Les inclusions ont duré jusqu'en 2017, en juillet 2017, et nous avons pu inclure sur cette recherche 229 patients. Ensuite, donc, toutes les données, etc., sont traitées donc, par des biostatisticiens. Et aujourd'hui, en 2019, j'attends le rapport de ces biostatisticiens pour pouvoir écrire. Donc j'ai quelques résultats, donc il y a des résultats probants sur cette recherche-là, et donc du coup je vais ensuite écrire des articles scientifiques d'ici la fin de l'année et puis en 2020. Et concernant Laborie, donc j'ai soumis cette année de nouveau un protocole de recherche sur les patients bipolaires, bipluminaux, et donc nous attendons la réponse de ce financement en décembre 2019. Voilà, donc vous serez tenus au courant par l'Argos.
Donc pour revenir sur la notice d'information et le consentement, donc la notice d'information, c'est une information qui doit être claire, qui doit être compréhensible. Donc c'est pas un langage scientifique barbare dans la notice d'information, on essaie d'être le plus clair possible, qui va exprimer le but de l'étude, la méthodologie qui est employée, la durée de la recherche. Une recherche a toujours un début et une fin. Quand on dépose un protocole au niveau des comités de protection des personnes, on va leur dire notre projet va durer 2 ans ou 3 ans. Si au bout de 3 ans, on n'a pas terminé, on peut demander une prolongation. Ils peuvent refuser comme ils peuvent accepter. Mais au bout de cette durée-là, c'est fini. On n'a plus le droit de mener cette recherche-là, ça se termine. Et les contraintes de l'étude, les contraintes pour les patients, les risques qu'ils peuvent encourir et également les bénéfices potentiels. Ensuite, le consentement, c'est quelque chose d'obligatoire. On ne peut pas faire une recherche sans qu'il y ait une signature de ce consentement-là. Donc le consentement, il est précis, il est très clair. Et c'est un accord volontaire. Ce n'est pas parce qu'on signe le consentement qu'on est obligé d'aller au bout de la recherche. Le retrait du consentement peut se faire à n'importe quel moment dans le cadre d'une recherche. Le consentement, il est aussi rédigé d'une manière claire et compréhensible pour les participants. Et ce consentement, bien sûr, il ne peut pas être signé par les patients qui sont, par exemple, hospitalisés sous contrainte, ou ne peut pas être signé s'il y a des mesures, notamment de tutelle, où on a besoin de l'accord de tuteur en plus de l'accord du patient.
Donc les caractéristiques du consentement, c'est vraiment, comme elle vous le disait, le docteur Arica, qui doit être préalable à la recherche. Ensuite, il est toujours recueilli par l'investigateur, qui est soit en fait le médecin dans un protocole médical, mais il peut aussi être recueilli éventuellement par, en fait, dans les projets paramédicaux, par l'investigateur qui est le porteur de projet paramédical. Il est toujours libre et éclairé. Il est donné par écrit ou oral, le plus souvent par écrit. On peut refuser aussi de rentrer dans un protocole. C'est pas parce que le médecin psychiatre ou généraliste vous propose le protocole que vous devez accepter. Et il y a aussi la possibilité de retirer son consentement tout au long de la recherche. C'est-à-dire que si vous avez commencé le protocole et puis que au milieu, vous souhaitez l'arrêter, c'est entièrement possible. Et à ce moment-là, les données recueillies, pareil, on vous demandera si les données déjà recueillies, on peut ou pas en fait les conserver. Donc vous avez vraiment la main mise sur ce que vous avez à nous donner. Et ce qui est important aussi, c'est de noter la participation à cette recherche dans le dossier médical du patient.
Donc je vous disais aussi que le financement des projets est quelque chose d'important. Le financement, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre d'indemniser les participants, notamment pour les frais de route. Parfois, certaines personnes y prennent une journée, ils s'absentent une journée de leur travail. Donc ça fait partie aussi de cette indemnisation-là. Ça nous permet parfois de financer du matériel, parce qu'on a besoin de certains types de techniques pour faire certaines analyses. Ça nous permet de financer des temps de personnel pour soit saisir les données, soit coordonner les projets. Et donc ces financements, souvent, on va les avoir soit par les instituts hospitalières par des appels à projets qui peuvent être soit régionaux, soit nationaux. Il y a aussi des appels à projets européens dans lesquels on peut participer. On peut aussi demander à des sociétés savantes, à des fondations, parfois à des associations de malades. Donc les industriels, c'est très rare. Donc, ils ont leurs projets particuliers, mais bon, ça peut faire partie des interlocuteurs. Mais globalement, c'est un exercice très éprouvant, parce qu'il faut soumettre à chaque fois les protocoles, il faut les rédiger d'une manière particulière. Chaque fondation, chaque société va demander une rédaction spécifique, donc ça demande du temps d'adaptation. Et puis les appels à projets, souvent il y a un temps particulier, donc il ne faut pas rater le coche. Si on le rate, c'est pour l'année d'après. On soumet le projet, il faut attendre 3-4 mois, soit on a un financement, soit on n'a rien. Donc on cherche un autre appel à projet. Donc c'est quelque chose qui peut demander extrêmement de temps et puis ralentir finalement cette recherche qu'on a envie de mener.
Donc on voulait aussi vous informer par rapport à comment et où avoir les informations sur les protocoles. Alors déjà, nous travaillons, notre équipe, à présenter en fait les protocoles en cours à l'URC aux psychiatres de Laborie, mais aussi en fait aux généralistes. Vous pouvez trouver des informations parfois dans les médias, la télévision, la radio, mais aussi la presse écrite, où on ne recherche pas uniquement non plus que des patients. Des fois, on peut rechercher aussi des personnes contrôles, c'est-à-dire que sans aucune pathologie, pour comparer entre les patients sains et puis les patients atteints d'une pathologie. Bien sûr, Internet, alors attention, hein, pas partout, mais je vous indiquerai plutôt d'aller voir sur les sites des hôpitaux déjà, les laboratoires de recherche aussi, et évidemment les associations de patients usagers et les familles.
La communication autour des projets est très réglementée, c'est-à-dire qu'on peut pas dire, on peut pas communiquer comme on veut, on peut pas faire la pub d'un projet comme on le souhaite ou comme on a envie. À chaque fois qu'on veut déposer un texte dans les médias, le texte il est soumis à l'accord du comité de protection des personnes. Donc il faut qu'on l'envoie, que le comité de protection des personnes nous valide le texte en question, et ensuite on peut le diffuser. Pareil pour la presse aussi orale, la communication autour des projets est très réglementée aussi. Donc, il y a beaucoup de cadres hein, autour de la recherche, c'est un côté protecteur. Donc pour vous présenter un petit peu l'unité de recherche clinique dans laquelle on travaille avec Cécile, cette unité se situe au niveau du centre hospitalier Henri Laborie. C'est une unité qui est à vocation régionale. Et cette unité se compose d'une équipe pluridisciplinaire. Donc dans cette équipe, on va avoir donc les médecins, moi et il y a le professeur Jaffari également. Donc notre rôle, c'est de pouvoir garantir qu'il n'y a pas de risque aux personnes qui participent à la recherche. Donc le but, c'est quand les patients souhaitent participer à une étude, à une recherche particulière, de vérifier qu'il n'y a pas de risque pour vous quand vous participez à cette recherche-là et que ça ne va pas aggraver votre état de santé. Donc il y a un travail quand même de vérification. Il y a aussi un travail d'information. Donc on va informer les patients sur quel est le projet, quelle est l'utilité, quels sont les intérêts à le faire ou à ne pas le faire. Ensuite, dans cette équipe-là, on a les infirmières avec qui on travaille qui vont aussi également participer à l'information des patients, mais également parfois à des gestes techniques. On a besoin dans certains protocoles des prises de sang, de la prise de la tension, du poids, de contrôler certains paramètres. Il y a également les ingénieurs de recherche qui vont nous aider à mettre en place la méthodologie, à vérifier le matériel. Il y a les chercheurs qui vont valider aussi le côté scientifique de la réflexion. Il y a les attachés de recherche clinique. Les attachés de recherche clinique, c'est des personnes qui ont pour rôle de vérifier sur le plan réglementaire que tout a été fait comme il faut. C'est elles qui vont vérifier le côté réglementaire, qu'on a bien respecté les textes de loi, que le dossier a bien été soumis au CPP, que le CPP a donné son accord. C'est eux qui vérifient la signature de tous les consentements avant le démarrage du projet. Donc, elles vont faire en sorte que le dossier soit vraiment respecté pour que, si on a un audit, si on a un contrôle, que ce contrôle soit dans le cadre prédestiné. Donc, il y a aussi les techniciens d'études cliniques qui vont, eux, nous aider surtout pour préparer les dossiers, pour convoquer les patients, préparer les rendez-vous. Il y a les biostatisticiens et les data managers qui vont avoir un rôle d'analyse par la suite, parce qu'une fois qu'on a récolté beaucoup de données, c'est pas suffisant, il faut les analyser. Et eux, ils vont pouvoir faire ces analyses-là. Et puis, on a bien sûr les secrétaires qui vont nous aider dans les prises de rendez-vous, dans l'information des patients et dans tout le travail, dans la rédaction des courriers et tout le reste. Voilà, on a terminé pour notre partie.
Merci beaucoup à mes collègues. Alors, c'est très détaillé. Et puis, avec l'idée quand même de tout vous expliquer de A à Z, parce que souvent, la recherche, ça peut être quelque chose de très flou, de très abstrait, de peut-être un peu fourre-tout. Et on comprend, quand les collègues ont exposé ça, que voilà, il faut parfois quand même des années, hein, entre le germe, on va dire, de l'idée et puis l'application auprès de vous, hein, c'est-à-dire auprès des patients. Hein. Donc, c'est évident c'est important de connaître ça, quand par ailleurs, on peut entendre dans les médias, et pas très loin de nous, hein, dans la Vienne, pour même très très près de Poitiers. Il y a eu quand même très récemment tout un tas de choses absolument épouvantables qui ont été expliquées. Donc ça, c'est pas de la recherche, mais ça, c'est de la recherche. Hein. Voilà, faut vraiment faire la différence hein, entre les deux. Et voilà, donc on savait pas. Hein, donc on a déprésenté ça aujourd'hui, mais. Donc vous allez tous être concernés hein, par cette recherche, comme vous l'avez compris. Et finalement, à partir du moment où vous, déjà, vous êtes venu à cette conférence, vous allez même pouvoir informer votre médecin, qui peut-être lui-même n'est pas au courant de tout, hein, de la possibilité en psychiatrie de rentrer donc, dans des protocoles, comme on dit. Peut-être que je pourrais rentrer dans un protocole, peut-être que mon patient pourrait rentrer dans un protocole. Donc hop, on appelle l'unité de recherche clinique, et puis à ce moment-là, bon, bah, les patients sont vus, etc. Donc on a quand même à Poitiers la chance d'avoir cette unité. Hein. Tous les hôpitaux, bien sûr, n'ont pas l'unité de recherche clinique. Les associations de patients, de proches viennent. Hein. C'est un endroit très ouvert, très, très libre. Ça, le professeur Jaffery y compte beaucoup. Hein. C'est pas un coffre-fort, hein, l'unité de recherche clinique. Hein. Et donc, c'est très vivant. Hein, et vous êtes tous, autant qu'on est, on peut être concerné à un moment hein, par cette recherche qui, bien sûr, est consacrée à la psychiatrie, hein, puisque c'est à la santé mentale, hein, voilà, comme, pour être plus large. Et pour une unité qui n'est pas très ancienne encore, quand même, hein, voilà, qui est jeune, on va dire. Encore, hein, voilà. Alors là, on va embrayer sur quelques petites vidéos. Donc, on a décidé de faire parler un Canadien, voilà, parce que l'accent canadien, c'est sympathique. C'est agréable à entendre. Et puis, ça fait partie d'une des vedettes hein, qui est venue cette année donc à la journée bipolarité universitaire. C'était un des invités principaux. Et donc, on a choisi des petits extraits donc, qui concernent, bien sûr, le trouble bipolaire à vous présenter, hein, et ce qui amènera après... plus largement aux questions et à la discussion. C'est le professeur Beaulieu Serge.
Comme clinicien, je fais face à la complexité des phénotypes de troubles bipolaires. Il est loin le temps où on parlait de la maladie bipolaire. On parle surtout des maladies bipolaires avec toutes les variantes qu'on y connaît. Cet après-midi, on entendra parler sûrement des comorbidités fréquentes qui accompagnent ces troubles. Mais uniquement sur le plan génétique, comme tout le monde, on avait énormément d'espoir que la génomique allait nous apporter des solutions. Donc, dans cette étude publiée dans Lancet en 2013, on voit quand même certains gènes associés aux troubles, par exemple ici, de schizophrénie, et que l'on retrouve, entre autres, même chez des patients dépressifs. Donc, des SNPs, donc ce qu'on appelle des single nucleotide polymorphisms, qui sont associés, entre autres, à la schizophrénie, mais qu'on retrouve également chez nos patients déprimés, qu'on peut retrouver naturellement beaucoup chez nos patients bipolaires, et inversement, des gènes, des SNPs associés aux troubles dépressifs unipolaires, mais que l'on retrouve également chez nos patients bipolaires. Donc, par conséquent, il est vite devenu clair que nous avions affaire à des patients qui présentaient une mosaïque de facteurs génétiques qui pouvaient les prédisposer à présenter une maladie colorée par cette mosaïque et qui, par conséquent, fait que chacun de nos patients est un peu différent, sont un peu différents les uns des autres. Donc, déjà là, d'imaginer que l'on puisse approcher arriver à une classification diagnostique basée sur des catégories diagnostiques est un peu troublante. Cette notion de catégorie diagnostique, comme clinicien pour nous, pose beaucoup de problèmes. Malgré tout, c'est peut-être la meilleure chose que nous ayons jusqu'à maintenant. Alors, quel est le futur? Voici un article publié en 2016 par le groupe de Clements qui fait, pour la première fois, je pense, à ma connaissance en psychiatrie, l'utilisation d'une approche dimensionnelle pour catégoriser nos patients. Une lecture obligatoire pour tous mes résidents en psychiatrie. Dans cette étude, ils ont pris 879 patients ayant présenté des éléments de psychose dans leur histoire, soit donc des diagnostics officiels de schizophrénie ou maladie schizoaffective ou bipolaire, et ils les ont caractérisés avec un ensemble de marqueurs biologiques, marqueurs sociaux de fonctionnement, marqueurs cognitifs, etc., etc., et imagerie cérébrale. Et finalement, en faisant les analyses statistiques, ce qu'on appelle les analyses de groupe, de clusters, et ils sont arrivés à créer trois biotypes. Le premier biotype, focusons sur les images qui sont à gauche, ici, donc biotype 1, où il y a beaucoup de dégénérescence neuronale, biotype 2, où il y en a un petit peu moins, et biotype 3, où il y en a peu. Donc, dans mon jeune temps, j'ai suffisamment de cheveux blancs pour parler de mon jeune temps, nous, on nous enseignait, les troubles bipolaires sont chanceux. Les gens qui souffrent de cette maladie récupèrent très bien de leur épisode de manie ou de dépression et demeurent fonctionnels par la suite, peu de pertes cognitives, retournent travailler, etc., etc. Naturellement, c'était totalement faux. D'accord? Et on voit maintenant quand même qu'il peut y avoir des variations énormes. Donc, dans mon jeune temps, on aurait dit, voici les patients schizophrènes, voici les patients schizoaffectifs, et voici les patients bipolaires, à droite. Naturellement, nos patients sont un peu distribués un peu partout. Les points orange que vous voyez sont des patients bipolaires, les croix mauves sont des patients schizoaffectifs, les triangles bleus sont des patients schizophrènes, l'axe Y reflète l'intensité des éléments psychotiques dans le passé. Naturellement, plus de patients schizophrènes ont eu des psychoses, naturellement. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que l'on retrouve des patients bipolaires qui, dès quand même quelques épisodes de maladie, ont une perte neuronale importante, tout aussi importante que les patients souffrant de schizophrénie ou de maladies schizoaffectives. Et cela, pour un clinicien, c'est quelque chose d'important. J'ai un de mes patients, un ingénieur gradué de McGill, 35 ans, n'a jamais, jamais, jamais réussi à retourner sur le marché du travail. Impossible. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir dès le départ. Quand j'ai un jeune patient de 25 ans, est-ce que mon patient appartient à ce groupe-ci, à gauche, ou le biotype 1, où on a beaucoup de dégénérescence neuronale et par conséquent beaucoup de préoccupations au niveau potentiel de récupération neurocognitive, versus un patient qui peut être schizophrène, j'en ai, ou schizoaffectif plutôt, et qui, lui, serait dans le groupe biotype 3, avec peu de dégénérescence neuronale. On a quand même des exemples de mères de famille atteintes de schizophrénie qui ont fait élever leur famille, qui ont travaillé, qui ont très bien performé malgré tout. Et c'est probablement parce qu'elles appartenaient à ce groupe peut-être de biotypes. Les études en imagerie cérébrale ont démontré que, par exemple, même chez des patients bipolaires en résolution de symptômes dépressifs ou d'hypomanie, donc ils sont eutymiques, on voit qu'il y a encore à gauche ici cette hyperactivité amygdalienne qui persiste même chez des patients bipolaires en rémission. Ils ne sont plus déprimés, ils ne sont plus en hypomanie. Alors que des patients unipolaires, MDD à côté, encore une fois, c'est la flèche, voilà. Donc, les patients déprimés, unipolaires, eux, reviennent, leur activité amygdalienne revient à la normale. Donc, nos patients bipolaires demeurent, je dirais, un peu comme ingénierés ou wired en anglais, pardonnez l'anglicisme, pour être hyper réactifs à des stresseurs. Et ça, quand on explique ça à nos patients, ils comprennent très bien et ça démystifie beaucoup le pourquoi ils sont si anxieux et si sujet à cela. Donc, on a poussé la chose plus loin. Avec mon collègue Orgui Armoni, qui est un imageur cérébral, et notre étudiant à la maîtrise, Dr. Corbalan, également psychiatre d'Argentine, nous avons fait une stratégie dans laquelle on demandait à nos patients, dans un scanner, avec l'imagerie fonctionnelle par IRM, de les soumettre à des images à valence négative. Des images horribles, du sang partout, des couteaux plantés dans le thorax, toutes sortes de choses. Et naturellement, la réaction à cela initialement est que l'amygdale s'allume. Les complexes de noyau amygdalien dans le système limbique deviennent activés fortement. Et là, on demande au sujet, imaginez un scénario qui fait que ce scénario très négatif va devenir acceptable ou possiblement même positif. Alors, imaginez que les ambulanciers sont déjà là, il y a des gens autour, le patient est allongé dans un lit d'hôpital avec des tubes un peu partout, mais il va survivre, on le voit bien, on s'en occupe, etc., etc. Les sujets contrôles ici, vous le voyez, en l'espace de 5 à 10 secondes, cette hyperactivité amygdalienne revient à la normale. D'accord? Les sujets bipolaires, incapables de le faire. Incapables. Pourquoi s'intéresser à l'insula? Parce que, encore une fois, quand j'étais très jeune, lorsque j'ai fait ma maîtrise en neuroanatomie, mon superviseur de thèse m'avait dit, l'insulaire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette structure? Je lisais là-dessus et il me dit, oh, ça, c'est pas important. Oublie ça, c'est focus sur l'amygdale. Bon. Alors, heureusement, les choses évoluent. Alors, l'insulaire est peut-être beaucoup plus importante qu'on le pense. En dépression bipolaire, cette structure devient hypométabolique. C'est une structure qui rassemble les informations de niveau somatosensoriel via le cortex temporal, l'amygdale, mais aussi le contenu émotif dans l'insulaire frontal. Et par conséquent, joue un rôle important, on pense, dans la modulation de l'état émotif en fonction des stimuli sensoriels, mais aussi frontaux. Donc, pour faire une histoire courte avec notre collègue Zindel Segal, S-E-G-A-L, basé à Toronto, mais qui est un ancien de McGill, alors, j'avais approché Zindel pour lui dire, écoute, ma psychologue senior insiste pour que l'on fasse du mindfulness-based cognitive therapy, des techniques de pleine conscience. Elle m'a entraîné là-dedans. Je ne suis pas du type à pouvoir faire du mindfulness. Vous savez, l'exercice avec le raisin qu'on laisse flotter dans la bouche pendant 3 minutes, 4 minutes, moi, en 30 secondes, il était avalé. Ma conclusion est que j'aime mieux les raisins liquides, sous forme liquide. Donc, je serais plus dans le mindfulness actif, la marche dans la forêt, etc., ces choses-là. Mais quand même, on s'est intéressé, on a soumis à quatre reprises une demande de 1,4 million de dollars canadiens, ce n'est pas énormément d'argent, pour faire une grosse étude sur 4 ans de l'utilité du mindfulness en ajout au traitement standard des patients bipolaires pour augmenter la maintenance en eutymie chez nos patients. Ça a été refusé 4 fois. On a quand même publié une petite étude là-dessus. Mais la logique est que les patients qui sont entraînés à faire du mindfulness, de la pleine conscience, des techniques de pleine conscience, l'activité de l'insula, l'hypométabolisme associé à la dépression, revient à son état normal, donc revient à zéro. Et ces gens-là semblent avoir, en dépression unipolaire récurrente, une plus grande stabilité de leur humeur. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté qu'on fasse de la recherche là-dessus pour nos patients bipolaires, parce que clairement, ce sont des patients qui auront des récurrences de leur maladie. Et avec certains bons résultats. Donc, comme moi, il y a certains patients qui ne sont pas capables de faire du mindfulness. On oublie ça, ce n'est pas pour eux. Mais j'ai d'autres patients qui sont très bons là-dedans, qui sont doués, là, et qui sont capables de dire, je commence à percevoir des petits symptômes d'hypomanie, j'ai mis en application les techniques de pleine conscience, j'ai diminué les stimuli, etc., etc. Et ils sont capables de résoudre un épisode d'hypomanie en éclosion en l'espace d'un week-end tranquille en appliquant les techniques. Donc, c'est quelque chose qui peut être utile pour l'utilité du traitement des troubles bipolaires. Autre chose intéressante, donc ici, la luminothérapie, naturellement, qui, au moment où nous avons écrit nos guidelines en mars 2018, on n'avait pas encore accès au papier qui est sorti dernièrement dans l'American Journal of Psychiatry, qui démontrait une activité quand même positive de la luminothérapie, quelque chose que j'utilise beaucoup. La kétamine, bien sûr, la kétamine, le S-kétamine maintenant, qui est un dérivé intranasal de kétamine, qui va être disponible au Canada à partir de juillet. Donc, on commence déjà à penser à comment est-ce qu'on va organiser nos cliniques de kétamine pour être sûr qu'il n'y a pas d'abus et qu'on ne laissera pas nos patients partir avec la kétamine à la maison, là, naturellement. Mais donc, c'est quelque chose quand même qui, comme vous le savez, peut donner des réponses antidépressives très rapides et récupérer ou prévenir des actions suicidaires et éviter des hospitalisations inutiles pour le patient. La maintenance. Et je vais terminer sur cette section-là. La maintenance est la chose la plus importante. On veut que nos patients demeurent bien. On veut éviter des rechutes. Et là, ce n'est pas simplement une question de médicaments, naturellement. Il faut tenir compte du patient dans son ensemble. Les comorbidités dont on a parlé plus tôt et dont on va reparler cet après-midi. Les antécédents d'abus qu'ils ont eu dans leur enfance. Vous savez, environ 60 % des patients bipolaires ont des antécédents d'abus physiques, sexuels ou autres dans leur enfance. Et plus il y a eu des abus sévères, plus la maladie va débuter en jeune âge. Ça, ce sont des travaux de Gabriel Leverich et Robert Post, qui datent des années début 2000, et qui démontrent cela clairement. Voici une étude faite par un de nos collègues, encore une fois au Douglas, Jan Sprusner, qui travaille plus au niveau de la démence, mais qui, chez des patients jeunes et âgés, a corrélé le volume de l'hippocampe avec l'estime de soi. Quelque chose de très simple. L'estime de soi, la base de tout. D'accord? Et vous voyez que même chez les jeunes patients, ceux qui ont une faible estime de soi ont un volume hippocampique plus faible que ceux qui ont une estime de soi plus élevée. Et naturellement, avec l'âge, il y a une diminution encore du volume hippocampique. Alors, qu'est-ce que ça signifie? L'hippocampe est un inhibiteur de cet axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, il bloque ou il réduit la réponse à des stresseurs. Il est naturellement relié aux troubles cognitifs et naturellement au développement de la démence. On n'a qu'à penser aux travaux de Sonia Lupien et de bien d'autres qui démontrent également un lien entre l'hypercortisolémie chronique et le développement de troubles cognitifs à long terme. Donc, c'est quelque chose d'important pour soi. Je dis à mes patients, ceux et celles qui ont des difficultés d'estime de soi, je suis de ceux qui préconisent que ce genre d'intervention-là pour améliorer l'estime de soi devrait se faire dans les écoles. Dans les écoles, dans les lycées, avec les jeunes, pour faire de la prévention. Et j'écrivais une lettre à l'attaché politique de notre ministre de la Santé au Québec en fin de semaine dernière, parce que c'était le gala de Revive et elle était venue nous rencontrer. Elle m'avait demandé, Dr Beaulieu, qu'est-ce que vous pensez qui devrait se faire pour améliorer les soins, l'accès aux soins en santé mentale au Québec? Ben, c'était une des choses, c'était un peu cela, c'était de débuter le tout d'emblée, dans très jeune âge, dans les écoles, et faire de la prévention. Autre chose qui nous a intéressé, c'est la psychoéducation. Naturellement, ça fait au-dessus de 20 ans que nous faisons de la psychoéducation auprès de nos patients, enseigner à nos patients à devenir leurs propres docteurs. Et je rigole avec mes patients, je les appelle docteur un tel, et puis j'aime leur enseigner les choses de base qui leur permettent de faire des actions préventives lorsque des débuts de symptômes commencent à faire éclosion. Un peu le même principe que de n'importe quelle maladie chronique telle qu'un diabète, on aime que nos patients puissent s'autogérer dans la mesure du possible avec des approches quand même sécuritaires. Donc, on a quand même étudié avec Sagar Perry, qui, encore une fois, c'est un grant du CanMat, l'impact d'une psychoéducation de 6 séances en groupe, comparativement à, désolé pour les amateurs de TCC, mais encore une fois, TCC individuel, modifié pour inclure de la psychoéducation, ce qui faisait qu'on faisait plus que 12 sessions, on faisait 21 sessions. 21 sessions individuelles de TCC modifiées pour inclure de la psychoéducation. Et pendant 2 ans, on a suivi l'outcome de nos patients, qu'est-ce qui arrivait à nos patients, le taux de rechute en dépression. On serait attendu à ce que le TCC fasse beaucoup mieux qu'un groupe de psychoéducation de base, mais non, il n'y a pas eu de différence, pas de différence significative. Au niveau de la manie, on s'est dit, bon, peut-être que ça va être un peu différent, mais non, même pas significatif encore une fois. Donc, pensez-y 2 secondes, mettez un chapeau d'administrateur sur votre tête. Moi, j'ai dû le faire comme administrateur, gérer des budgets. Et ce qui ressort quand on y pense, 6 séances de groupe avec une dizaine de patients par groupe versus 21 sessions individuelles. Le coût, le temps impliqué est énorme comme différence. Alors, c'est beaucoup plus efficient de faire des thérapies de groupe. Donc, ça, c'était la psychoéducation traditionnelle. Vous avez un intervenant, psychologue, infirmière, quelquefois un psychiatre, travailleur social, qui s'y connaît, qui arrive, qui est érudit, qui vient donner un enseignement un peu didactique en faisant participer quand même les patients dans la discussion, mais quand même de nature un peu didactique. Et moi, personnellement, j'étais encore un petit peu insatisfait de tout ça parce que je voyais bien qu'avec, au début, on avait peut-être 12 patients dans le groupe et avec le temps, on aboutissait après une dizaine de séances à 6 patients et tout ça. J'ai dit, c'est quoi ça? On perd notre temps, là. Donc, on a pris une patiente, une de mes patientes, avec 15 ans d'expérience ou 20 ans d'expérience de sa maladie, intelligente, bien articulée, et on lui a fait faire un témoignage dès le début du groupe. Et la différence que ça a fait. Alors, tout le monde parlait de Sylvie. Au diable, Dr Beaulieu, on s'en fout. Dr Beaulieu a dit ça, on s'en fout, c'est pas grave. Sylvie a dit ça. Sylvie a le contenu expérientiel. C'est ça qui fait la différence. Et par conséquent, on a adopté maintenant de nos jours plus les ateliers J'avance de Revive. Et là, encore une fois, excusez le conflit d'intérêts, je suis sur le CA de Revive, donc je l'avoue. Mais quand même, j'y crois. Et dans ces groupes, les groupes peuvent être animés par une patiente ou un patient. Le groupe peut être co-animé avec un psychologue et tout ça pour apprendre à aider à gérer les réactions parce qu'il y en a. Mais c'est surtout la façon de transmettre l'information. Ce sont les patients qui génèrent la liste des symptômes. Alors, il y a beaucoup d'activités basées un peu sur le TCC, d'ailleurs, je dois l'avouer, mais qui amènent les patients à générer par eux-mêmes et entre eux le matériel éducatif nécessaire à mieux gérer leur maladie. Donc, la rétention de l'information, le sentiment de prise de contrôle de cette maladie est beaucoup plus et bien meilleur. Donc, je vous invite à aller sur le site javance.revive.org et vous allez avoir le contenu. Il y a des modules qui sont donc développés avec cahier de l'animateur, cahier pour le patient, etc., etc.
Voilà, ben on remercie le professeur Beaulieu, hein, quelques à distance, qui était là. Donc là, on a recueilli hein, des extraits hein, de sa conférence. Donc, j'espère que vous avez suivi. Hein. De toute façon, autrement, là, on va peut-être, je pense, laisser la place maintenant à un certain nombre de questions. Hein. Je pense que ça sera plus intéressant. Un porteur de micro, Jacques.
Voilà. Est-ce que l'accent vous a pas trop gêné, peut-être au début, hein? Le caribou, c'est fantastique. Est-ce qu'il y a... C'est un peu compliqué, c'est un colloque professionnel, mais je crois que tout en chacun, au début, il va le regarder une fois, il comprendra là un quart de l'histoire. Il se documentera, il re-regardera, il finira par apprendre. Je crois que ce que disait le professeur Jaffari, c'est... Ça se partage. Ce qu'a dit le professeur Beaulieu, c'est sa connaissance. Il l'a partagé avec vous, il n'en a rien perdu, et vous en avez un peu plus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions un peu plus précises, techniques, sur ce qui a été dit, sur la recherche, ou plus généralement sur des questions générales ? Je me répète, il n'y a pas de mauvaises questions. Alors... Il faut toujours une première question. En général, c'est nous qui la préparons, histoire de démarrer. Et là, on n'a pas travaillé. Oui.
Je voudrais savoir pourquoi il faut autant de temps pour faire le diagnostic du bipolaire au niveau des équipes médicales.
Merci.
Alors, je pense que alors c'est déjà bon, la psychiatrie, la santé mentale, hein, c'est pas une science médicale hyper exacte, hein, donc il y a quand même aussi. Bon, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la maladie bipolaire est certainement une maladie qui existe à l'état, on va dire, d'embryon très tôt, hein, certainement déjà dès l'adolescence. Hein, bon. Alors, sauf que l'adolescence, ce n'est pas du tout un âge où on fait vraiment des diagnostics faciles, hein, puisque c'est un âge de bouleversement émotionnel, de bouleversement hormonal, de la puberté. Donc, c'est très compliqué de mettre des diagnostics de bipolarité forcément à cet âge-là. Alors, et après ? Bon, alors après, il faut savoir quand même que 60% des personnes bipolaires vont être surtout des bipolaires de type 2, c'est-à-dire des personnes qui vont faire pas mal de dépression dans leur vie, hein. On fait une dépression, on fait une autre dépression, on vous donne un antidépresseur, on vous donne un antidépresseur. Bon. Voilà. Et après, pour vraiment, dans la dépression bipolaire, faire le diagnostic de bipolarité, il faut avoir, je dirais, un entretien médical très approfondi pour détecter chez la personne, même dans sa vie, un ou deux épisodes, peut-être assez courts, d'hypomanie. Hein ? C'est-à-dire là... où la personne a été pendant quelques jours, quelques semaines, en hyperactivité, en dormant très peu, en étant hyperactif, etc. Alors, ça ne l'a pas forcément gêné dans sa vie, vous voyez ce que je veux dire. Mais nous, ça nous est utile pour le diagnostic. Or, ces questions-là ne sont pas toujours forcément recherchées automatiquement par tous les médecins. Voilà. Et je pense qu'il y a ça. Après, il y a des masques, c'est-à-dire qu'il y a une porte d'entrée au diagnostic qui n'est pas la bonne. Les comorbidités dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Par exemple, les troubles d'addiction, hein, c'est-à-dire l'alcoolisme, la toxicomanie, sont assez fréquents avec le trouble bipolaire. Hein. Ils peuvent parfois être, en avant, et on ne verra pas du tout que la personne est bipolaire. On dira, bah, celui-là, c'est un alcoolique, celui-là, c'est... Voilà, bon. Donc, il y a tout un tas de petits pièges dans lesquels on est... Même un bon médecin peut tomber, si vous voulez. Hein. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est... Alors, ce qui est regrettable, et on aimerait bien aussi que la recherche puisse faire avancer ça, ne serait-ce peut-être par le biais encore de questionnaires, enfin de protocoles un peu précis, c'est qu'il faudrait pouvoir rechercher les bonnes choses au bon moment, hein, et peut-être faire les choses très tôt. Hein. Quand le docteur Beaulieu disait qu'il fallait commencer à l'école un petit peu à apprendre un certain nombre de choses pour ses émotions, pour tout ça, il a raison, hein, l'estime de soi, plus c'est précoce, mieux c'est, puisque vous avez vu que le cerveau, ça lui plaît quand même, hein, donc il y a d'autres choses qui ne lui plaisent pas. Ce qui ne lui plaît pas, c'est les traumatismes, les abus sexuels, la violence, la maltraitance, qui n'est pas toujours quelque chose de simple à dire après, hein, quand on est adulte, et parfois beaucoup de refoulements font que d'ailleurs, on n'en a presque plus le souvenir. Hein. Donc, voilà, c'est pas simple à cause de ça, c'est pas une pneumonie, c'est pas, voyez, donc mais la porte d'entrée de la dépression, de l'anxiété aussi éventuellement, bon, peut être au premier plan. Je sais pas si tu veux dire autre chose, Rina. Donc voilà, je pense que c'est encore une des raisons. Par contre, la formation des médecins, la formation des psychiatres, bon, toutes ces choses-là, des infirmiers aussi, hein, devraient arriver petit à petit, et j'espère, mais ça va, je pense, être encore un peu long, hein, à faire qu'on arrive à mieux détecter ce trouble. Et il est vrai qu'à partir du moment où on sait de quoi on est malade, bah déjà, même si ça peut donner une claque, bah on sait pourquoi et on sait comment on va essayer de vivre avec. Voilà. Mais sauf que quand on ne sait pas, moi j'étais frappée encore de voir des patients, encore il y a quelques années, qui étaient à l'hôpital, hein, et qui étaient soignés depuis des années avec un médicament, et qui ne savaient pas du tout ce qu'ils avaient comme maladie. Moi, si je ne sais pas ce que j'ai comme maladie, je ne prends pas de médicaments. Hein. Donc, je crois qu'il y a ça aussi. Et puis, l'intervention des patients, hein, donc, qui maintenant vont intervenir de plus en plus, hein, dans les soins, hein, les médiantes. Voilà, ça, c'est très important, ça. L'éducation, la psychoéducation, l'éducation thérapeutique dont parlait le professeur Beaulieu. À Poitiers, on a ce module. Hein, on peut le proposer à tous les patients. Bon, voilà, il a bien insisté. Hein, le côté du groupe, hein, qui est vraiment très important aussi. Et puis après, c'est sûr que les résultats, on les aura peut-être... il faudrait aussi faire des études pour voir si effectivement ce côté retard du diagnostic est quelque chose qu'on apprend depuis des années et qu'on répète comme ça parce qu'on l'a appris. Et est-ce que ce n'est pas en train de s'améliorer un peu, par exemple? Alors ça, je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça. Mais bon. Nombreux, peut-être on arrivera à quelque chose.
Ce que je disais, c'est l'information permet aussi d'améliorer le diagnostic. Plus on fait des informations sur les pathologies, plus on en parle, plus les gens vont se sentir peut-être concernés et vont pouvoir consulter aussi. Donc je pense qu'il y a quand même eu une amélioration de ce côté-là, mais il y a encore des progrès à faire.
D'autres questions ? Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait actuellement des recherches sur les troubles bipolaires en cours sur Poitiers. Parce qu'on a vu qu'au Canada, ils travaillaient beaucoup là-dessus. Et,
ils ont beaucoup de sous.
Ils ont beaucoup de sous,
oui. Il y a Argos qui pourrait peut-être donner des sous.
C'est ça, oui. On en cherche. On en cherche pour financer la recherche.
On cherche des sous pour financer la recherche.
Donc pour, enfin, merci pour la question. Et pour revenir un petit peu sur l'intervention du professeur Beaulieu, l'idée de cette intervention, c'est de pouvoir vous montrer qu'en partant des constatations cliniques, effectivement, on peut aller beaucoup plus loin et essayer de comprendre d'une manière plus spécifique comment ces constatations cliniques peuvent se reproduire parfois sur le plan du cerveau, sur le plan de certaines zones du cerveau, sur le plan génétique et comment ça se manifeste. Donc ça, c'était aussi l'intérêt de cette vidéo, c'est de voir un peu le côté un peu pratique de la recherche. On part d'une question clinique simple et on arrive à quelque chose de beaucoup plus développé, beaucoup plus riche. Donc sur la question des protocoles de recherche sur Poitiers, on a quelques protocoles effectivement dans la bipolarité. Après, il y en a aussi, l'unité de recherche, on a nos propres protocoles, donc on met en place des sujets de recherche. Et on essaye de participer au protocole de recherche des collègues dans la France entière. Donc effectivement, il y a des protocoles qu'on réalise, mais en association avec d'autres centres. Après, multicentrique, voilà. Donc ça, c'est aussi la vocation de cette unité, c'est de pouvoir un peu... On essaye tous, en fait, finalement, quand une équipe a une idée, a un protocole, qu'il a fait toutes les démarches réglementaires, on essaye de s'entraider pour aller plus vite et essayer d'avoir des résultats beaucoup plus probants. Et quand on arrive à partager, c'est mieux. Donc voilà, et oui, il y a quelques idées de protocoles de recherche. Mais c'est compliqué de communiquer autour, parce qu'on n'a pas forcément le droit.
La réglementation. Voilà.
D'autres questions? C'est vrai qu'on s'approche de l'heure... fatidique.
Oui.
Moi, j'ai deux questions, enfin une question et une réflexion. Est-ce que le protocole, ça consiste notamment pour les patients à tester des médicaments et voir comment ils réagissent par rapport à ces médicaments-là ?
Effectivement, il y a des protocoles de recherche qui ont pour objectif soit de développer de nouvelles molécules, donc d'essayer de voir des nouvelles thérapeutiques, comme il en a parlé de la kétamine, par exemple, qui va bientôt arriver. Et aussi, on peut parfois prendre des vieilles molécules et dire, en fait, elles n'ont pas été assez bien testées ou assez bien recherchées avec les bons paramètres. Donc, effectivement, il y a des recherches là-dessus aussi. Je ne sais pas si c'est une question sur l'état actuel des choses.
Oui, l'état actuel.
L'état actuel des choses, sur les molécules dans la bipolarité, en termes de recherche, non. Dans notre unité. Après, la kétamine n'est plus dans le cadre de la recherche. C'est devenu quelque chose qui va être commercialisé bientôt.
Et une autre question ou réflexion, c'est comment se fait-il que les médecins généralistes ne soient pas plus informés sur les troubles de la bipolarité ? Parce que, enfin, moi j'ai un beau-frère notamment qui est un médecin à la retraite, mais depuis seulement 2 ans. Et quand je lui ai dit que j'étais atteint de bipolarité, il m'a dit on l'est tous plus ou moins bipolaire. Bon.
Alors, si vous voulez, les médecins généralistes, bon, on va pas leur jeter la pierre, hein, parce que bon, ils ont déjà beaucoup de choses à faire. Mais bon, ils ont un cursus de médecine générale, hein, donc ils n'ont pas de formation suffisante dans le domaine de la psychiatrie pour très bien connaître toutes les maladies. En même temps, c'est eux que vous voyez en premier. Donc c'est vrai que c'est vos médecins traitants. Alors, il y a quand même peut-être des choses qui pourront évoluer, je pense, dans le cadre des études de médecine, on va dire. Et voilà. Donc c'est vrai que plus tôt, même pour eux, plus tôt on leur apprend des choses, mieux c'est. Je dirais que ça dépend un peu des médecins aussi. Il y en a qui sont quand même plus orientés sur la psychiatrie, d'autres moins. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que nous, on travaille beaucoup plus avec eux, c'est-à-dire que certainement plus d'informations vers eux, plus de liens avec eux pour les informer quand on vous suit en même temps qu'eux. Et puis, ils ont des formations continues. Enfin, il y a des choses qui peuvent exister. Mais voilà, ils ne peuvent pas être compétents en tout, quoi, hein, c'est ça le problème. Hein, la médecine, c'est général, c'est toutes les spécialités, le pied à la tête. Donc voilà, bon... Alors, en même temps, comme c'est une maladie très fréquente, il faut bien penser que c'est quand même une maladie. Et je rappelle que ce n'est pas une mode. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est quand même... Parce que des fois, on entend des choses tellement aberrantes que... C'est, voilà, c'est une réelle maladie. Hein, voilà, c'est une maladie, d'ailleurs, qui va devenir de plus en plus fréquente les dernières prévisions de l'OMS hein, étaient quand même assez autour de la dépression et de la dépression bipolaire était quand même dans le sens que ça allait faire partie des trois maladies les plus importantes au monde quand même. Donc, alors après, il faut accepter. C'est vrai que des fois, bon, tout ce qui est psy encore, c'est pas toujours bien vu. Hein. Voilà, c'est quand même un peu stigmatisé. Voilà, c'est psy. Bon, ben, c'est une maladie, c'est des maladies, qu'elles soient mentales ou physiques, c'est des maladies. Hein. Et d'ailleurs, les personnes bipolaires ont également une fragilité parfois par rapport à certaines maladies physiques aussi, hein, le diabète entre autres. Voilà pour les généralistes, mais bon, voilà.
Pardon, mais généraliste, est-ce que à la suite des traitements par les psychologues, les psychiatres, on ne peut pas se faire en fait marquer les traitements par notre généraliste?
Alors les généralistes, déjà, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Donc, déjà, voilà. Bon, déjà pour commencer. Alors après, dans la mesure où, bon, si vous voulez, il y a une personne bipolaire doit avoir un suivi avec un psychiatre. Bon, alors que ça soit quand il est stabilisé, on ne lui demande pas d'aller le voir tous les 3-4 matins, mais enfin quand même, au moins une ou deux visites par an, hein, voilà, bon, pour faire le point, etc. Bon, c'est un minimum, hein, c'est comme quand on va voir un cardiologue, on va voir un gynécologue, enfin c'est quelque chose qui doit suivre. Et après, les généralistes, s'ils sont d'accord, peuvent très bien aussi vous faire des ordonnances. Mais bon, ça, faire une ordonnance, c'est quand même un acte médical, hein, donc voilà. Donc il y en a qui le font, d'autres, on peut se partager, moi je trouve que c'est bien quand on se partage. On devient plus riche, comme on disait tout à l'heure.
Voilà. Une dernière question. J'ai vu une mère là-bas. On m'a indiqué deux dernières questions.
Oui, bonsoir. C'était juste pour rebondir sur ce que vous avez dit. Je me questionnais. Vous avez dit, selon l'OMS, ça va être une des trois maladies qui va le plus se développer. C'est dû à quoi? C'est parce que les gens vont être reconnus plus facilement ou il y a vraiment une explosion ou une émergence avec des différents facteurs? Voilà, c'était juste ça.
Je pense que parce qu'il y a un meilleur diagnostic, il y a une meilleure reconnaissance, un meilleur diagnostic. Plus on diagnostique, plus on arrive à avoir le nombre de patients exacts atteints de maladies. Et il y a également plus d'études épidémiologiques. Effectivement, peut-être plus, effectivement, parce que les études épidémiologiques, là, par exemple, je ne sais pas s'il y a une étude en France qui recense le nombre de patients bipolaires. Je pense pas. Donc ces études épidémiologiques, on se base sur des études des fois de 1980 à 1985 et qui ne sont pas été réactualisées et remises au goût du jour. Donc forcément, on a un manque d'informations. Et si ce manque d'informations il est comblé, on arrive à un meilleur diagnostic. Donc on a déjà des meilleurs critères cliniques, donc ça nous amène à une meilleure reconnaissance de la maladie et donc peut-être une meilleure épidémiologie par la suite.
Bonsoir. Moi, je voulais savoir si le diagnostic de trouble bipolaire est plus rapide à établir lorsqu'une personne arrive aux urgences ou est hospitalisée sous contrainte ou à la demande d'un tiers. En phase hypomaniaque.
Alors c'est vrai que, bon, comment on rentre dans la maladie? Enfin, j'aime pas trop ce terme. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de portes d'entrée, bien sûr. Alors, la porte des urgences est une des portes d'entrée, bon, dans des états très aigus, soit très très haut, soit très très bas, on va dire. Hein, bon. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez un accès maniaque-hypomaniaque, ça signe le fait que vous avez un trouble bipolaire, hein, ça c'est clair. Donc, alors ça peut être des fois induit, d'ailleurs même par des médicaments, hein, des antidépresseurs qui peuvent vous faire virer en hypomanie. Après, il faut éliminer bon, des toxiques, enfin, il y a un certain nombre de choses à faire. Mais bon, alors c'est vrai qu'à partir de là, c'est sûr que bon, là, ça facilite, on va dire, le diagnostic. Mais pour autant, c'est pas pour ça qu'on va forcément faire toutes les recherches, parce qu'après, il faut quand même remplir un certain nombre de questionnaires. Enfin, il faut aller un peu plus loin, quoi. Mais bon, ça peut être une porte d'entrée, c'est vrai. Hein, donc, qui à ce moment-là. Et quand vous êtes bipolaire de type 1, vous avez fait un accès maniaque. Hein, alors là, c'est même si vous l'avez fait il y a 30 ans. Ça y est, vous êtes bipolaire. Parfois même, on pensait que vous aviez fait une bouffée délirante aiguë, comme on disait à une époque. On pourrait même penser que vous étiez peut-être schizophrène. Enfin, vous avez vu que le professeur Beaulieu disait qu'il y avait quand même des frontières un petit peu parfois entre les cerveaux. Hein. Voilà, la maladie.
Une dernière question ou plus de questions? Oui.
Merci. Bon, j'ai écouté il y a quelques semaines une émission sur Public Sénat, je crois. concernant ces troubles bipolaires. Il y avait 3 psychiatres et 4 malades qui avaient été soignés, qui avaient été guéris. Et j'ai retenu que ce que vous avez dit d'une autre manière, en France, il y avait 600 000 personnes qui étaient, qui connaissaient ce trouble. Et j'ai retenu également qu'il y avait un traitement qui, dans beaucoup de cas, était efficace, un traitement au lithium. Et j'ai retenu également qu'il y avait d'autres types de soins, la psychothérapie. Alors, est-ce que vous pouvez apporter des commentaires sur ces traitements, en fait, leur efficacité? Vous allez me dire que ça dépend des cas, mais enfin, vous êtes spécialiste.
C'est vrai que Public Sénat est une chaîne très intéressante. Hein. Il y a vraiment des reportages tout à fait utiles. Alors, le lithium, alors c'est vrai que le lithium était la première molécule qui a été pour le traitement du trouble bipolaire. Hein. Donc, c'est le traitement le plus ancien qu'on ait eu dans les années 50, je crois. Et d'ailleurs, tous les traitements en psychiatrie remontent aux années 50. Donc, pour vous dire que c'est pas vieux quand même tout ça. Hein. Donc le lithium a eu sa période de gloire. Après, il y a eu ses périodes, on va dire, de décadence, comme beaucoup de vieilles molécules, et qui d'ailleurs de nouveau suscite beaucoup de recherches aujourd'hui. Hein. Donc le lithium reste en effet un des médicaments les plus efficaces, tant dans les phases aiguës que dans les phases de prévention, de prophylaxie, hein, pour éviter les rechutes. Et en particulier, le lithium est un médicament qui prévient le risque suicidaire de manière extrêmement efficace et qui permet également, au niveau cérébral, d'avoir, je crois, une forme de protection cérébrale. D'ailleurs, même pour la dégénérescence, même pour les Alzheimer, tout ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Par contre, en contrepartie, le lithium est un médicament qui doit être très bien suivi. C'est-à-dire que si vous avez des 600 000 patients sur lithium en France et qui ne sont plus du tout suivis, ils vont avoir des problèmes de santé au bout d'un certain nombre d'années, puisqu'il faut surveiller les reins, il faut surveiller la thyroïde. Donc, vous voyez, là, le généraliste, il ne peut pas tout faire. Hein. Il peut faire un peu, mais pas tout. Donc, voilà, avantages et inconvénients de ce médicament, qui reste un excellent médicament, hein, qui aujourd'hui, d'ailleurs, depuis quelques années, est de beaucoup mieux étudié. On est revenu sur des tas de protocoles sur ce médicament. On a découvert des choses et encore, on a beaucoup de choses à découvrir. Après, bon, les psychothérapies, bien sûr, sont utiles. La psychoéducation aussi. Et puis, bon, tous les autres médicaments, on ne peut pas vous faire un cours sur ça. Des médicaments qui n'ont pas d'effets secondaires, ça n'existe pas. Autrement, ce n'est pas des médicaments. Même les placebos ont des effets secondaires, quand même. Ça, il faut savoir. Donc ça, c'est le côté quand même... tout ce que le cerveau peut générer, c'est extraordinaire. Le suivi est essentiel. Hein, voilà. Et puis surtout, la relation thérapeutique, la relation de confiance, et puis les groupes. Hein, le professeur Beaulieu disait les groupes, les associations également, les pairs qui sont concernés. Ça, c'est... Donc, il y a un ensemble de choses. Hein, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est pouvoir continuer à vivre le mieux possible. Et pour ça, il faut développer tout un tas de stratégies. Hein. Ça, c'est sûr. Ça demande de l'énergie. Ça, c'est vrai.
Merci. Voilà, on va peut-être terminer. On va vous montrer, vous l'avez devant les yeux, le site du CH Laborie, l'hôpital Laborie, votre hôpital, si vous êtes concerné. Vous retrouverez toutes les vidéos un petit peu plus bas. Bon, l'actualité, les actualités et les vidéos. Donc, toutes les vidéos que vous avez vues ce soir sont là. Donc, si vous voulez regarder, il y en a d'autres. Il y en a sur la prévention du suicide, il y en a sur beaucoup de choses. C'est une mine, c'est très intéressant et c'est très ergonomique, c'est très facile à utiliser. Voilà, profitez-en. On va terminer en vous disant que une petite alerte quand même par rapport à l'actualité. Le recrutement des internes s'est terminé ces jours-ci et la psychiatrie n'est pas très favorisée aujourd'hui. Je vais retrouver mes chiffres. Les étudiants qui ont demandé la psychiatrie, il manque 17,6 postes d'internes à pourvoir. 17,6 postes d'internes ne sont pas pourvus. Les étudiants n'ont pas demandé la psychiatrie. Alors, est-ce que c'est... Voilà, il faudrait essayer de trouver pourquoi. Par contre, il y a des étudiants qui veulent la psychiatrie. Le premier qui a inscrit en psychiatrie est 134e dans les classements. Donc, c'est très haut. C'est un très bon étudiant selon les critères. Donc, voilà. Que faire ? Et j'ai posé la question sur les réseaux sociaux de manière un peu ironique cet après-midi. Que les patients pourraient-ils faire pour rendre la psychiatrie attractive ? Parce que, voilà. Mais c'est une question à prendre à rebours. Les pouvoirs publics aussi, que font-ils ? Les grandes réformes actuellement, bon, je vais me fâcher. Voilà. Merci à toutes et tous. Pour l'association, vous pouvez venir nous voir, on peut discuter quelques minutes, un peu plus de renseignements. Merci mesdames, puisque le plateau était très féminin ce soir, et encore merci pour une nouvelle conférence Argos.
D'être venu.